Radio. Le commentaire de
Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
Alors Mathieu, il y a un livre qui fait beaucoup jaser ces temps-ci, c'est de Frédéric Lacroix, « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Tu l'as lu, qu'est-ce que tu en penses?
Je crois, pour peu qu'on laisse de côté la COVID quelques minutes, oui. Si c'est possible,
oui.
Que c'est l'événement intellectuel de l'automne. C'est un livre, donc Frédéric Lacroix, c'est un chercheur indépendant, il publie aux éditions du Montréal « Pourquoi la loi 101 est un échec ». C'est une étude, on pourrait dire, de la situation linguistique de la manière la plus exhaustive, la plus complète au Québec. On pourrait dire... À la lumière de la loi 101, évidemment, donc d'une loi qui devait transformer fondamentalement la situation du français au Québec. Une loi qui devait faire du français la langue commune. Une loi qu'on a l'habitude de se raconter au Québec qui dit que la loi 101 aurait transformé les choses. Elle aurait changé la réalité. La sécurité linguistique des Québécois serait assurée. Et Frédéric Lacroix, c'est le signe d'une lucidité intégrale. Hein, là-dessus, on ne sort pas de ce livre en jouant de la trompette, mais en se disant qu'il faut pas lâcher. Quand on lit ça, on voit par exemple la chute du français dans la région de Montréal est très engagée. Le déclassement du réseau collégial et universitaire francophone à Montréal par le réseau anglophone est très engagé. Les transferts linguistiques, c'est-à-dire le nombre d'immigrants qui passent, les allophones, qui passent au français ou à l'anglais, jouent nettement à l'avantage de l'anglais, bien au-delà du poids de la minorité historique anglophone dans la population. Donc, c'est un ouvrage qui devrait, pour peu qu'il soit lu, ceux, les hommes politiques, les femmes politiques qui vont le lire, n'auront plus le droit de dire « mais ça va globalement bien », à moins, encore une fois, de nous produire des statistiques lysenkistes, hein, de jeux de statistiques, pour nous dire finalement que « non, non, tout va bien si on redéfinit les choses. Si on redéfinit la notion de ce qui va bien, alors on peut dire que ça va bien. » Non, non, non. Cet ouvrage-là, qui est un ouvrage documenté, un ouvrage chiffré, un ouvrage avec une vraie réflexion à la fois historique, sociologique, démographique, c'est un ouvrage qui nous oblige à regarder la réalité des choses. Nous sommes dans une situation où nous sommes au point de bascule. Nous sommes au moment où bientôt ça sera irrécupérable. Il nous dit, peut-être par générosité, que tout n'est pas foutu, que tout n'est pas perdu. Mais la réponse pour lui, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'ajustements mineurs ou plus majeurs à la loi 101. Il nous dit, il faut redéfinir le circuit institutionnel au Québec. C'est pas normal que les institutions francophones soient à ce point sous-financées, qu'il y ait un tel débalancement du financement pour les collèges, les universités. Donc, il nous invite à redéfinir le financement des institutions. Il nous invite à renforcer des institutions francophones qui, elles seules, auront la capacité de franciser véritablement.
Parce que le titre est un peu peut-être trompeur. J'ai pas lu le livre, mais on a l'impression qu'il dit il y a un problème avec la loi 101. Et c'est la question que je te pose. Est-ce que le verre est dans la pomme? C'est-à-dire que la loi a été mal conçue ou non, la loi a été affaiblie par le fédéral et par notre propre indolence?
Ben, il y a deux choses. C'est-à-dire, la loi a été conçue, puis ça, là, je vais faire un peu de millage sur mes propres affaires, mais ça regroupe les siennes. La loi a été conçue dans un esprit, quand on s'intéresse à Camille Lorrain, ça devait être une loi qui donnerait pleinement ses effets dans un Québec indépendant. La loi 101, sans le Québec indépendant, c'est une loi qui, par définition, est limitée dans ses effets. Ensuite, Lacroix nous le dit très bien, ça, ça avait été aussi documenté par Éric Poirier, qui est un autre chercheur sur ces questions-là, un juriste. La loi 101 a été systématiquement torpillée par les fédéraux. Et les Québécois, plutôt que d'affronter le fédéral en disant le Québec, enfin, plutôt que d'affronter le fédéral en disant non, désolé, nous, on décide de maintenir la loi parce qu'on croit qu'elle est d'intérêt vital, on a toujours accepté de la rapetisser, de la réduire, de la diminuer. Ce qui fait qu'un jour, on a eu Stéphane Dion qui nous a dit que la loi 101 était une grande loi canadienne. Pourquoi? Parce qu'elle avait été canadianisée, elle avait été émasculée, elle avait été désubstantialisée. Donc, puisque c'était maintenant une loi bibelot, hein, une loi folklore, ben Stéphane Dion pouvait nous dire « Bravo les enfants, vous avez le droit à votre loi ». Et là, Frédéric Lacroix nous montre, et c'est ça qui est parti, il revient aux origines de la loi 101 aussi. Quand quelquefois on nous dit aujourd'hui « Oui, mais les francophones ont des services en français, tout va bien », là, ils disent « Non, 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 c'est pas ça l'objectif de la loi 101. C'est pas qu'on accommode les francophones en leur offrant de temps en temps des services en français s'ils l'exigent et insistent. C'est que la langue normale des interactions au Québec soit le français. C'est que la langue d'intégration soit le français. Que la langue de de contact des citoyens soit le français. Et aujourd'hui, on a décidé de, presque, je dirais, ça c'est mon analyse à moi, mais presque sur le mode psychanalytique, on a décidé de réinterpréter à la baisse les attentes de la loi 101 pour ne pas s'avouer qu'elle a échoué. Et qu'est-ce qu'on fait? On se dit, c'est finalement pourvu que les francophones soient respectés lorsqu'ils l'exigent dans un commerce, tout va bien. Mais c'était pas ça la loi 101. Puis l'attente de ce basculement linguistique, c'est le Nouveau-Brunswick en 2000. Il nous dit en 2036, là, on va être 69% de langue maternelle française au Québec. Et si la tendance se maintient, 2036, c'est demain. Si la tendance se maintient, un jour, on va chanter avec d'autres mamies, daddy, la fameuse chanson.
Oui. Et j'espère qu'on peut recevoir des services en français lorsqu'on rentre dans tes commerces. C'est comme si on nous faisait un cadeau, comme si, regardez, oui, comme vous avez, comme on est gentil, il me semble que c'est le minimum syndical. On est chez nous.
Ce que tu dis est fondamental ici, je crois. C'est rendu qu'on est tout heureux qu'on nous reconnaisse ce droit fondamental que de vivre un peu dans notre langue. Puis de la même manière, quand on voit certains leaders anglophones nous dire « Vous voyez, on a appris le français, on est de bonne foi. » Non, mais là, est-ce qu'on se rend compte de l'absurdité de cette phrase-là? Au Québec, on ne devrait pas apprendre le français parce qu'on est de bonne foi. On devrait apprendre le français parce qu'il est nécessaire, parce qu'on n'a pas le choix pour fonctionner dans cette société que de fonctionner en français. Quand on nous présente le français, l'apprentissage du français, comme un cadeau, la preuve qu'on la trouve bien belle, la langue française, puis on a appris, nous aussi, à dire « je t'aime » en français. ça devrait pas être un cadeau fait aux francophones, un prix de récompense, un prix de consolation, un prix de félicitation, de dire « c'est bien beau votre langue, on va la parler ici aussi ». C'est parce que la langue commune, la langue par laquelle on fonctionne, la langue par laquelle on a l'ascension sociale, ça, c'est important, ça. Ça devrait être le français. Frédéric Lacroix nous dit, la jeune génération qui capte les signaux qu'on lui envoie, c'est quand on dit les jeunes sont plus éclairés que nous tous, un instant, la jeune génération capte simplement les signaux que la société envoie, et bien qu'est-ce qu'il remarque? Il y a un passage à l'anglais dans la fréquentation scolaire, chez les allophones, mais aussi chez les francophones au niveau collégial. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la langue de la promotion sociale au Québec, c'est de plus en plus l'anglais. Alors là, est-ce qu'on veut consentir à ça? Où est-ce qu'on se dit, on reprend l'offensive linguistique pour vrai, pas avec des espèces de potions de grand-mère, mais avec une véritable réforme linguistique? Il nous donne des pistes. De ce point de vue, je pense que Simon-Jeanin Barrette, François Legault, Paul Saint-Pierre Plamondon, Mme Massé devraient tous lire, et même Mme Anglade, si ça l'intéresse, devraient tous lire cet ouvrage pour se mettre d'accord sur le constat.
J'espère qu'il attaque aussi les Québécois, parce que nous sommes aussi responsables, et tu as certainement vu ce texte dans le Journal de Montréal cette semaine sur des entreprises qui ont des raisons sociales en anglais, des entreprises qui ont été créées à Montréal, au Québec, par des francophones, et des entreprises qui portent le nom de Milestone, de Squeeze, de Searchlight, de Bread, de Gold Coast, etc., pour avoir l'air cool. Et comme j'en parlais un peu plus tôt, le Cirque du Soleil ne s'appelait pas le Circus of the Sun, et pourtant ça a eu un impact considérable, un succès planétaire. Donc, on a nous-mêmes baissé les bras, là.
Là-dessus, j'entends ce que tu dis, puis je suis d'accord, les Québécois devraient tous un moment donné se redresser, se louer, s'acheter même, pourquoi pas, une colonne vertébrale. Mais là-dessus, moi, je t'avouerais, je tangue entre ta position et une autre. C'est-à-dire, oui, les Québécois doivent en faire plus, mais à un moment donné, il y a une pesanteur institutionnelle. Il y a une pesanteur, on pourrait dire, il y a une tendance sociale qui est très lourde. Et puis, c'est bien dur pour chacun de résister à la tendance sociale. Juste donner un exemple en lien avec l'actualité présente. En ce moment, combien connaît-on d'intellectuels, de journalistes, d'artistes qui, devant la théorie du racisme systémique, bien franchement disent « ça va beaucoup trop loin, puis ça va même dans la mauvaise direction », mais qui, en public, soit vont dire le contraire ou ne diront rien. Pourquoi? Pas simplement parce qu'ils sont lâches. Non, c'est pas toujours ça. C'est que la pression est telle que pour être capable de circuler en société, il faut envoyer un signal de ralliement idéologique. Mais de la même manière, j'ai l'impression que la pression, c'est un fois mille, un fois cent mille, la pression est telle pour s'angliciser, surtout dans le milieu des affaires, où on présente l'anglais comme la langue mondiale du succès, et ainsi de suite. Sa pression est telle que j'ai l'impression que la tendance institutionnelle décourage la francisation. Je ferais même une autre comparaison, pour les nouveaux arrivants. Jusqu'aux années, je dirais 90, jusqu'au référendum, la dynamique de la loi 101, plus la dynamique de l'indépendance qui s'en venait, faisait en sorte que pour un nouvel arrivant, c'était payant que de s'identifier au Québec français. On était en train de créer une dynamique qui aurait pu, à long terme, faire en sorte que la promotion sociale, c'était embrasser la majorité historique francophone. Quand on est dans un Québec vaincu, un Québec diminué, un Québec qui doute de sa langue, mais un Québec dans le Canada, un Québec où le multiculturalisme est sacralisé, un Québec où l'anglais prime sur le français, eh bien, et un Québec américanisé, où le racialisme américain pousse à exacerber toutes les différences qui soient, eh bien, c'est presque plus payant aujourd'hui s'approprier une identité américaine, canadienne, montréalaise, que de s'approprier la référence à l'identité québécoise. Donc, c'est pas la faute des individus de ce point de vue seulement, ça compte aussi. Mais la tendance institutionnelle est lourde. Je pense que l'avantage de ce livre, qui ne déresponsabilise pas les Québécois, c'est de nous rappeler, par ailleurs, l'importance des institutions dans les dynamiques linguistiques.
Moi, j'irais aussi loin. Je dirais que le gouvernement du Québec n'a pas à investir des sous dans des entreprises québécoises qui ont une raison sociale en anglais et qui ont un site Internet en anglais seulement. Vous êtes comme ça, on ne vous donne pas un sou.
Mais c'est fou, hein? C'est-à-dire qu'au moins, on est dans cette situation où, au Québec, le français devient optionnel. Le français, c'est un cadeau qu'on fait aux natifs de la place pour leur dire qu'on les a pas complètement oubliés. Il faut retrouver cette idée qu'il ne faut pas parler... Tu sais, il y a une formule de... Je perds le nom de l'auteur quand je voulais dire. Je crois que c'est André Bello qui disait « On n'a pas besoin de parler français, on a besoin du français pour parler. » Moi, c'est fondamental, cette phrase-là. C'est-à-dire que le français, ce n'est pas qu'un instrument de communication, c'est l'accès au fond de notre âme, c'est l'accès au fond de notre culture, c'est l'accès à notre mémoire longue, c'est l'accès à nos sentiments les plus profonds. C'est à travers cette langue-là qu'on décrit, qu'on témoigne de notre présence au monde. Plus largement, on pourrait dire qu'au Québec, il faudrait que le français soit simplement nécessaire. Ensuite, si en plus on l'aime, c'est encore mieux. Mais si, pour les nouveaux arrivants, surtout pour les anglophones, qui par ailleurs, les anglophones, ils ont leurs institutions historiques, ils ont leurs droits, c'est très bien, mais il ne faudrait pas que des institutions historiques anglophones soient le pilier à partir duquel restaurer une forme de bilinguisme d'État au Québec. Ça nous amène, nous dit, soit dit en passant, au livre de Guillaume Rousseau et François Côté, sur faire du français la langue officielle au Québec, qui est paru à l'automne dernier. Donc, il y a toute une série d'ouvrages sous le signe de la lucidité en ce moment, mais celui de Lacroix me semble être l'ouvrage amiral pour le renforcement.
Et en terminant, tu sais que la loi 101, ça fait partie du racisme systémique. Là. C'est quoi ça, imposer notre langue aux autres, aux pauvres immigrants? C'est du racisme systémique.
Tu dis en souriant, mais pas tant que ça, parce que le Conseil interculturel de Montréal nous a expliqué que pour lutter contre le racisme systémique, dans un document qui est paru il y a quelques mois, il fallait offrir des services autrement qu'en français parce que la norme francophone, la norme française, était implicitement discriminatoire. Bon, moi, depuis le début, genre, cette théorie-là, qui est une théorie mal pensée, mal faite à partir de... C'est des concepts bancals, mais cette théorie-là, fondamentalement, elle instrumentalise des cas dramatiques pour faire le procès fondamentalement de l'existence même des nations, des peuples, et dans notre cas, de la loi 21, de la loi 101, de l'idée du Québec comme nation. C'est un marteau-piqueur pour déconstruire l'idée du commun, qui présente toute norme commune comme une tyrannie de la majorité. Il faudrait tenir compte de tout ça dans nos réflexions.
Est-ce que c'est un livre qui va être traduit en anglais?
mais si les Québécois le lisaient d'abord, ce serait pas mal. Ensuite, s'il fait une grande conquête jusqu'à Vancouver, ben pourquoi pas le Québec à la conquête du Canada?
Merci Mathieu Bocoté, bonne journée. Salut.
Bye bye.